La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message. Alors moi, j'ai entendu dire qu'on avait découvert une nouvelle catégorie de trous noirs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ?
Celui qui sait, c'est Olivier Godet, chercheur au CESR. Allô, Olivier,
oui.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez découvert concernant les trous noirs grâce à la source lumineuse HLX1?
Nous avons montré finalement que la source HLX1 était une source très brillante et nous en avons déduit qu'il devait s'agir d'une nouvelle classe de trous noirs, les trous noirs de classe intermédiaire. On s'est aperçu qu'il était associé à une galaxie qui se trouve à peu près 300 millions d'années-lumière de la Terre et qui nous a permis de montrer qu'elle était très loin, donc l'émission de cette source était très lumineuse.
Comment ce trou noir a-t-il été observé ?
La source est apparue finalement dans le champ de vue d'XMM Newton, lorsqu'XMM Newton était en train de pointer un autre objet du champ.
Pourquoi l'existence de trous noirs de masse intermédiaire a-t-elle été contestée ? Pourquoi tant de sceptiques ?
C'est simplement un processus scientifique. On peut spéculer, etc., mais avant que ça devienne un paradigme où les gens commencent à le prendre en compte de manière formelle, il faut qu'on présente des preuves factuelles de l'existence de tel objet. Donc ça a été la même chose lorsqu'on a découvert les trous noirs de masse stellaire et plus tard quand on a découvert les trous noirs supermassifs au centre des galaxies.
Cet objet HLX1, qu'a-t-il de particulier ?
L'idée en fin de compte, c'est que dans la classe des ULX, donc Ultra Luminous X-ray Sources, c'est la source la plus brillante jamais détectée jusqu'à présent, par un facteur 10. Maintenant, si on compare la brillance de cette source avec des trous noirs galactiques, on peut voir finalement que la brillance de la source peut être plus de 1000 fois plus brillante que les sources galactiques connues à ce jour. Continuons à faire un monitoring de cette source avec un satellite de la NASA appelé SWIFT, qui nous permet de suivre le comportement temporel de la source et qui nous a permis de montrer que la source présente des grandes variations en luminosité, par des facteurs supérieurs à 10, on est arrivé à montrer finalement que ce comportement est compatible avec le comportement des trous noirs galactiques que l'on connaît dans notre galaxie, mais à des luminosités 10 à 100 fois supérieures.
Alors, quelles sont les prochaines étapes pour votre équipe de recherche ?
Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est d'essayer d'utiliser Hubble pour sonder l'environnement d'HLX1. Et de l'autre, essayer d'observer cette source en radio qui pourrait nous permettre de poser des contraintes sur la masse du trou noir.
Et en quoi ce résultat est-il important pour vous, scientifiques ?
Bon, c'est toujours excitant de découvrir quelque chose de nouveau. L'autre aspect aussi intéressant, d'un point de vue de la physique et des trous noirs que j'étudie, c'est finalement essayer de voir si HLX1 suit ou non la relation, le plan fondamental des trous noirs qui semble fonctionner pour les trous noirs de masse stellaire et les trous noirs supermassifs. Et donc, il me permettrait de montrer qu'il y a une espèce de fil conducteur dans les mécanismes d'accrétion à l'œuvre autour des trous noirs, aux petites échelles comme aux grandes échelles.
Merci, Olivier Godet.
Ah, merci, c'est beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Rouge. 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 Dans un monde parfait, au centre spatial guyanais, tout serait aussi vert que la forêt tropicale. Seulement voilà, pendant les lancements d'Ariane, il arrive que le vert vire au rouge. Ce rouge-là n'est pas dû à un quelconque mouvement d'humeur. Non, si le rouge s'affiche ainsi sur les panneaux de contrôle, c'est que quelque chose n'est pas prêt et empêche le lancement. Cette indisponibilité peut venir de quatre sources. La base de lancement, le satellite, le lanceur lui-même ou les conditions météo. Par exemple, si la foudre menace ou que le vent souffle trop fort, le voyant de la météo passe au rouge. Si le système de suivi radar du lanceur est défaillant ou si une antenne chargée de recevoir des données est en panne, c'est le voyant de la base qui pique un phare. En fait, pour autoriser un lancement, le directeur des opérations doit voir quatre lumières vertes s'afficher sur son panneau de contrôle, signe que tous les moyens nécessaires sont bien disponibles et que toutes les conditions météo sont satisfaites. Si un seul voyant est au rouge, le lancement doit être retardé, voire repoussé à une date ultérieure si jamais ce rouge risque de se prolonger au-delà de la fenêtre de tir. Pour le dire autrement, un lancement d'Ariane, c'est exactement le contraire d'une tomate. C'est lorsqu'il est vert qu'il est bien mûr et qu'il est temps de cueillir le succès.
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Des ballons au secours de l'espace. On a parfois besoin d'un plus léger que soi. Malgré la précision croissante de leurs instruments, les plus lourds que l'air, que sont les satellites d'observation de la Terre, ne permettent pas encore aux scientifiques de découvrir tous les secrets des masses d'air qui circulent au-dessus de l'Antarctique. La raison principale se trouve dans les difficiles conditions auxquelles sont soumis ceux qui s'aventurent sur le continent blanc pour y récolter les données nécessaires à l'étalonnage des instruments spatiaux. La situation est d'autant plus regrettable qu'elle empêche d'améliorer la connaissance que nous possédons non seulement de la couche d'ozone atmosphérique, en particulier de sa diminution hivernale, le désormais célèbre trou d'ozone, mais aussi de la distribution des précipitations au-dessus de l'Antarctique. Sans cette dernière donnée, il est impossible de prévoir le devenir de la calotte antarctique, dont la fonte provoquerait une élévation du niveau des océans partout dans le monde, avec les conséquences dramatiques que nous pouvons imaginer. À défaut de pouvoir combler directement le trou d'ozone, comment combler ce manque de données ? Eh bien, en recourant au plus léger que l'air, au ballon, à l'instar de la campagne Concordiasi qui, pour la troisième année consécutive, a débuté avec le printemps austral le 2 septembre dernier. Au total, 18 ballons stratosphériques seront lancés, cette année depuis la base américaine de McMurdo, afin de survoler l'Antarctique à 20 km d'altitude, de pouvoir lâcher des sondes capables de mesurer les données de l'atmosphère, température, pression, concentration en ozone, et enfin de les comparer à celles récoltées au même moment par les satellites. Plusieurs pays se sont associés pour mener à bien cette campagne, la France, les États-Unis, l'Italie en particulier. Quant à son principe, et même à son lieu de déroulement, cette campagne n'offre rien d'original. Lancer des ballons à des fins scientifiques est l'une des spécialités du CNES et de son équipe d'aérostiers, basée à Erceau-Radour, depuis bientôt 50 ans, et ce dans presque tous les ciels de notre planète. À côté du glacial Antarctique, ou encore de la Norvège, les Seychelles paraissent plus accueillantes, de même qu'Hawaï. Pour autant, la campagne Concordiasi offre une belle occasion de rappeler le bien fondé de la diversité en science, l'indispensable complémentarité de ces disciplines et surtout la nécessaire coopération internationale. Cela est d'autant plus vrai que l'Antarctique a été déclaré patrimoine commun de l'humanité, tout comme l'espace dit extra-atmosphérique. Qu'est-ce que cela signifie ? Que ces lieux, facilement délimités en ce qui concerne le premier, plus difficilement pour le second, appartiennent à l'humanité tout entière. Qu'aucun de ses membres ne peut en revendiquer la propriété ou en tirer un profit, mais au contraire, que chacun en est responsable. Je sais qu'il n'en est pas de même ailleurs sur notre planète et que nous sommes tous enclins à revendiquer la propriété et l'usage de nos territoires, petits ou grands. Mais à l'heure où la mondialisation concerne non seulement nos réseaux de communication et de commercialisation, mais plus encore, les risques qui menacent notre espèce, notre planète, ne devons-nous pas prendre exemple sur ces campagnes scientifiques pour oser penser globalement et agir de même ?
Alors, allons-y.
Allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.